Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Bonjour, bonsoir, ici André Péloquin et vous écoutez votre balado d'information geek et jeux vidéo et sexy. Ben sur start et en effet, merci beaucoup Philippe, notre cher réalisateur et boîte à son. Et pour la première fois de l'année, nous sommes équipe complète, on est full house. J'ai à ma gauche Christine Lemousse qui est de retour. Bonjour Christine.
Allô!
Et à ma droite...
Allô, moi c'est Cassie.
J'ai Cassie Sharp et à Québec, j'ai Raphaël Lavoie.
Allô.
Bonsoir
le
tout le monde.
Le maître du loft.
Le maître du loft parce qu'il est invisible et il a beaucoup de poids dans la machine. Alors pour les gens qui nous écoutent pour la première fois, pourquoi pas? Écoutez, on est pas sur Start, on est un site web de nouvelles geek et gaming et à chaque semaine, les mercredis vers 18h30, sur notre site Twitch, le twitch.tv/pas sur Start, on enregistre devant un public, ma foi, fort en feu ce soir. C'est fuego, là. Et ça, on enregistre notre podcast devant public. Alors, interaction et tout ça. Et pour les gens qui sont comme, ben là, tu sais, je vais écouter le produit fini. Si vous faites un balado, vous allez manquer plusieurs perles. Comme pour les gens qui nous regardent sur Twitch en ce moment, il y a eu un bug technique qui a mené vraiment à des références à Christian Bale, des sacres. Il y a peut-être eu le mot Zune qui est sorti. Là, pour les gens qui se demandent, est-ce qu'on parle du lecteur MP3 ou d'un surnom pour le sexe masculin? Qui sait? Qui sait? C'était à vous d'être sur Twitch à ce moment-là. Vous l'aurez deviné, ça sur Twitch, c'est un peu comme les eaux internationales. On donne des canifs à des singes puis ils combattent, là, parce que c'est comme les lois de l'homme ne s'appliquent pas en eau internationale.
C'est Waterworld.
Exactement. Meilleur rôle de Dennis Hopper à vie, oubliez Apocalypse Now. Et ben c'est ça, et un peu plus tard, les vendredis, on vous propose une version remontée du podcast disponible sur la plateforme Cube, mais aussi sur Spotify, sur Stitcher, sur iTunes et compagnie. Avant de passer à nos chroniques et au dossier de la semaine de Raphaël Lavoie, je suis très heureux de vous dire, ça fait quelques semaines que je vous dis qu'on veut avoir des appréciations sur iTunes parce qu'on veut s'améliorer et ma foi, on a une moyenne de 4,5 en ce moment. On est très contents et surtout, on a eu de nouveaux commentaires.
Ouais.
Et on avait dit, justement, ben, pour encourager le monde, en fait, à laisser des étoiles, que ce soit 1, 3 ou 5, qu'on allait y réagir en ligne et en podcast. Et nous y voilà. Pour le commentaire vient d'une... j'ai bien fait de l'émologuer parce que le commentaire est laissé par une personne qui s'appelle TH3B3SN3R.
C'est probablement du leet.
Ouais, je pense que ça veut dire The Bestner, ou sinon c'est quelqu'un qui a entré son code de carte de crédit, là, qui nous dit qu'il aime le podcast. Merci beaucoup, The Bestner, si c'est comme ça qu'on le dit. Vraiment, ben c'est ça, il apprécie beaucoup, mais on nous reproche qu'on manque de diversité, que l'émission est trop souvent tourne autour de jeux Switch et des jeux qui découlent un peu de la Switch, d'aventure et tout ça, un peu friendly, là, avec des personnages rondouillés, là. Je paraphrase, on s'entend, là. Mais c'est, pendant ce temps-là, il y a des jeux qu'on n'aborde pas, comme les jeux de stratégie, comme XCOM, ce qui est vrai. Et pourtant, je suis un fan de la série XCOM. Civ, les roguelike, les grand stratégie, les jeux à la Waypoint, Three Moves... Les jeux de stratégie comme ceux de Paradox Games, par exemple. Et c'est ça, et aussi, cette personne-là nous réfère à d'autres podcasts à écouter pour qu'on puisse s'en inspirer. Parce que, sérieusement, je l'ai pas mal pris. J'ai vraiment vu ça de façon constructive. C'est ça, j'aimerais ça qu'on fasse un tour de table rapidement là-dessus avec mes collaborateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Aussi, on nous reproche que ça pourrait être plus long.
Et ça pourrait être plus niche.
Non, ça, il y a personne qui a écrit ça, par exemple, Christine. Tu me mets des mots dans la bouche et ça, c'était moi qui faisais semblant d'avoir des mots dans la bouche. Alors, parlons-en. Quasi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce commentaire?
Mais moi, je trouve ça cool parce que c'est pour moi une porte ouverte pour parler de simulateurs.
Oh my God. Et toi, Christine, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, pour moi, c'est vraiment cool parce que c'est une porte ouverte pour que ma chronique soit plus longue.
Raphaël, ouais, secours-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, écoute, je pense que ça ouvre la porte à des chroniques un peu bizarres de ma part. Fait que je pense qu'on va s'amuser. Hein?
Yes!
Philippe, toi qui es notre réalisateur, peux-tu dire quelque chose de pertinent? Parce que là, le monde me sabote en ce moment.
Je sais pas comment je me sens par rapport à faire un épisode plus long. Je sais que les spectateurs. Je sais que les auditeurs aiment ça quand c'est plus long, surtout quand c'est la communauté gaming. Mais regarde, on a tous des vies aussi, hein, nous aussi.
En effet.
Ben, mais oui, c'est vrai, des trucs plus niche, c'est toujours le fun. Mais je suis aussi d'accord avec les simulateurs, je suis pas gros fan, mais c'est vrai.
Hey, Construction Simulator 3 sort sur console en 2020 sur Switch, PS4 et Xbox One, c'est une très bonne nouvelle. On devrait en parler. Il y a juste bleedingcool.com qui en a parlé aujourd'hui.
Et Farming Simulator qui est gratuit sur Epic Games en ce moment.
Epic Games en ce moment, sur ça. Pour avoir tous les détails.
Mais à part de ça, je suis d'accord qu'on parle pas vraiment tant que ça de FPS ou de titres AAA, comme on dit.
Mmh, oui, d'accord. C'est vrai, tu as raison. On a parlé à quelques reprises du jeu plate là, que Christine aime beaucoup, le Destiny. Mais
elle aime Doom aussi.
Doom.
C'est vrai, on va vous en parler lorsqu'on va être à la niche à Les Mousses. Mais plus sérieusement, par exemple, j'aime beaucoup le look de Destiny. C'est juste chiant à jouer, mais c'est vraiment beau à regarder. Shots fired. Hey, une joke de first-person shooter ici, c'est fantastique. The Best Nerd, ton commentaire est fort apprécié. On va travailler là-dessus, sur la variété, la diversité aussi. On vous revient très bientôt avec du contenu un peu moins bonhomme rondouillet qui saute sur des champignons là, et qui sont des stéréotypes italiens. Là-dessus, à chaque épisode, on vous propose une question de débat qui pour alimenter notre chaîne Twitch, évidemment, mais aussi peut-être vos balades en métro, en auto, un truc du genre, ou peut-être juste, on va vous amener à vous interroger. Et cette semaine, c'est la chronique qui va clore cet épisode de Raphaël, qui va mener le bal. Et voici cette question. Vu que les Oscars s'en viennent ce dimanche, on vous demande, est-ce que ça existe? Un bon film inspiré d'un jeu vidéo. Un bon film inspiré d'un jeu vidéo. Pensez-y, on s'en reparle vers la fin de l'épisode. Mais en attendant, on va passer dès maintenant à ma collègue Kasi qui va nous faire son segment d'actualité qui s'appelle...
Quasiment de l'actualité!
Et on sort de la discothèque. Kasi, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'as-tu dans ton sachet de nouvelles cette semaine?
Majoritairement des nouvelles positives. J'ai des belles choses à vous annoncer. Puis une nouvelle un peu bizarre. Puis je vais commencer avec celle-ci parce que je ne sais pas quoi en penser. Si je vous dis Dan Houser, vous pensez immédiatement à Rockstar. J'imagine cofondateur de Rockstar avec son frère. Rockstar sans Dan Houser, c'est perturbant un peu comme concept. Mais il a annoncé qui quitte ses fonctions. On savait qu'il a fait comme un genre d'arrêt de travail l'année passée, qui était comme louche un peu. Mm-hmm. On n'avait pas vraiment de détails. Puis on a toujours pas de détails sur son départ de Rockstar. Je trouve ça quand même très surprenant. Qu'est-ce que ça veut dire pour Sam Houser, qui est son frère cofondateur? Qu'est-ce que ça veut dire pour les titres, les prochains GTA et Red Dead Redemption? Parce qu'il y a eu un rôle clé dans ces jeux-là en tant que lead scénariste, un scénariste très important pour ces jeux-là, il y a un rôle très important dans le ton Rockstar, dans l'intention Rockstar. C'est même souvent lui qui est cité dans les articles pour discuter des fameux prochains GTA qu'on sait jamais vraiment s'il travaille dessus. Mm-hmm. Donc, je suis perturbée un peu par cette nouvelle-là parce que je sais pas si c'est un signe d'épuisement de la pastiche que fait Rockstar des jeux. On sait que Dan Houser a déjà déclaré, l'année passée, il avait déclaré ça, c'est écrit sur le pinceaustar.com, qu'il voulait pas travailler sur un GTA cette année, dans le sens qu'un GTA n'aurait pas pu sortir dans le climat actuel, le climat politique actuel. Moi, je sens chez Dan Houser un épuisement social.
Oh.
Ouais. Puis je sais pas si c'est comme la maudite gauche qui ruine tout, ou si c'est plutôt comme mon Dieu qu'il y a trop de racistes, puis je peux pas faire un jeu controversé parce qu'ils comprennent pas que c'est de l'ironie. Donc moi j'aimerais ça en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe avec ça. On risque d'en savoir plus dans les prochains mois, prochaines semaines, peut-être lors d'une prochaine sortie d'un jeu Rockstar. sais pas vraiment qu'est-ce qui s'en vient pour Rockstar, parce que là, il y a des grosses affaires qui sont sorties récemment. Moi, personnellement, très déçu de ça. Je suis déçu de voir Dan Hauser partir. J'ai rien à dire sur le bonhomme en question, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a un rôle clé dans mes jeux préférés ever, là. Tu sais, mes jeux préférés. Fait que, moi, ça m'a fait un petit quelque chose, cette nouvelle-là, hier soir. Vous m'avez vu réagir, parce que c'est sorti, la nouvelle est sortie après nos heures de travail. Mmh. Et puis, nous autres, on a des channels de communication, où est-ce qu'on peut se jaser, puis moi, j'ai vraiment capoté. Mais voyons!
Vraiment, notre canal IRC était en feu ce soir-là. Ouais.
J'étais bien, bien triste, puis il y a le bon Raphaël qui a eu le temps de le faire, de faire l'article. Donc, merci Raphaël!
Quel homme!
Oui, plaisir.
Tout un homme.
Vraiment, on pourrait finir tous nos segments avec merci Raphaël ces temps-ci.
Oui, un good boy.
Ben oui, mais c'est à suivre, en effet. Je veux dire, c'est... Ouais.
C'est majeur.
Oui, malheureusement, majeur. Les cas d'épuisement dans cette industrie sont légion. Mais là, vraiment, ça vient de frapper quelque chose. Quelqu'un
d'énorme, oui.
C'est ça. Quelqu'un qui est un triple A en soi, en plus d'être un studio triple A.
Oui.
Kasi, as-tu d'autres actualités à nous glisser dans l'oreille?
Oui. Là, on va passer plutôt aux bonnes nouvelles. J'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer, des dates de sortie de trucs que vous avez hâte de regarder.
Mm-hmm.
Premièrement, Castlevania, la première saison de Castlevania sur Netflix, c'était 4 épisodes, hein, c'était pas long.
Mm-hmm. Non, c'est vraiment court.
Mais c'était 4 excellents épisodes. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série-là, dès le début, mais qui avait vraiment divisé la toile. Tu sais, des fois, quand tu sors une critique, moi, ce que j'aime faire, c'est aller voir les autres critiques pour voir est-ce que je suis passé complètement à côté de la traque puis j'ai une opinion complètement différente de tout le monde,
mm-hmm.
ou est-ce que tout le monde s'entend bien? Normalement, les gens sont quand même d'accord. Les critiques, c'est comme pas très divisé. Castlevania, par contre, c'était le chaos total. Probablement parce que c'est pas un jeu qui est sorti, donc il y a plus de plateformes médiatiques qui en ont parlé, parce que Netflix, c'est plus grand public.
Mm-hmm.
Donc, t'as eu comme les GQ de ce monde qui en ont parlé. Normalement, GQ fait pas vraiment de la critique de jeux vidéo, tu sais.
Ouais.
Là, ils en ont fait. GQ a détesté. Il y avait comme... IO9 avait adoré. Tu sais, c'était très, très, très varié. Moi, j'avais adoré. Là, finalement, il y a plus de gens qui ont commencé à aimer ça. Ils ont eu une deuxième saison et puis maintenant une troisième saison qu'on sait qui va sortir depuis hier, on le sait, dans exactement un mois.
Oh.
Moi, j'aime ça, les annonces à la Bethesda.
Ouais, totalement.
En passant... Il y a un jeu qui va sortir, puis ça sort là.
C'est mes annonces préférées.
Ouais, donc Netflix Castlevania, ça sort le 5 mars. Ça va être excellent. Beaucoup plus d'épisodes. Cette fois-ci, on parle de 10 épisodes, donc ça va être très, très, très bon. Hâte de voir ça. Et il y a du artwork qui est sorti en même temps pour cette annonce-là, faite par le créateur du show. Donc, pas le créateur, le réalisateur du show, plutôt parce que le créateur, c'est plus Warren Ellis. Là. Donc, très, très intéressant.
En espérant que cette troisième saison va fouetter dans le sens du poil les critiques et ne déchirera pas la toile à nouveau par ses critiques, tel un coup de fouet. OK, j'arrête.
Ça, c'était deux fouets en un.
Ouais, je sais. Castlevania, vraiment.
On espère mordre dedans.
Oui, c'est vrai. Non, mais sérieusement, Castlevania, vraiment, ça m'échauffe les sens. Là. Je sens mon sang bouillir.
Effectivement.
Fais une joke avec de l'ail, Christine. Fais une joke avec de l'ail. On retourne à Kasi. T'as manqué ton coup.
Puis, une petite dernière vraiment le fun, Mandalorian. On savait que ça allait sortir éventuellement en 2020. Moi, je pensais que c'était plus 2021. Là,
moi aussi, j'étais agréablement surpris.
Oui, puis plus récemment, ça jasait de 2020. Moi, j'étais comme non, ça se peut pas. Finalement, c'est confirmé, octobre 2020, les amis, on a la suite de Mandalorian. C'est tout ce que je vais dire là-dessus parce que je suis en train de m'étouffer, je tousse encore, les amis. Mais c'est une très bonne nouvelle. Hein. On va terminer ça de même. Mandalorian, Baby Yoda ou l'enfant.
Baby Yoda.
Très contente. Allez voir aussi sur PetStore.com si vous voulez acheter une figurine grandeur nature de 350$ ou me l'acheter à moi. Go for it.
Baby Yoda. Baby Yoda. OK, bye.
Bien joué, bien joué. Mais pour revenir avec cette figurine-là, là, c'est que je vais vous révéler des coulisses de PES sur Start. Et ce qui est le fun, c'est que mes deux collègues ne sont pas au courant. Ils vont peut-être être en colère avec
moi.
Oh
non, pas un autre dévoilement de quelque chose.
Non. De mon zoon.
Exactement.
Non, plus sérieusement, c'est que j'ai discuté plus tôt cette semaine ou c'était la semaine dernière avec la personne qui chapeaute les différentes marques de numérique, l'entreprise qui avec qui on fait affaire pour Pèse sur Star. Fait qu'il me dit, hey, ça pourrait être le fun, genre d'organiser un concours. On achète cette figurine-là de Bébé Yoda puis on la fait tirer. Mm. J'étais comme, OK, je vais me renseigner. Puis j'ai comme, oui, mais tu sais, c'est comme là, on peut la commander dès maintenant. Mais
la précommander, oui.
C'est ça, la précommander, mais la figurine sort en quoi, en octobre?
Je me rappelle pas.
En tout cas, elle sort dans quelques mois. Et là, moi aussi. Et ça, j'avais cette information-là avant qu'on annonce une deuxième saison du Mandalorian.
Ce monsieur qui parle avec un masque comme ça, puis qui a beaucoup d'attitude, puis qui est un gardien bien malgré lui d'une figurine yoga.
Ce monsieur-là. Mais je dis, ben là, tu sais, peut-être que le monde va s'être essoufflé. Fait que je sais pas, tu sais, on va y avoir l'air un peu en retard si, genre, quelques mois plus tard, comme, hey, on a mis la main sur une de ces figurines-là. On fait un tirage. C'est un peu weird. C'est comme si, comme, hey, on a des pogs à faire tirer ou comme, hey, on a un casse-tête de Alf. Le voulez-vous? Qu'on organise un concours là-dessus. Je ne dois pas prendre de risque vu que c'est.
Moi,
c'est
je l'aurais gardé.
$350 US?
US, ouais.
Ben, c'est un petit trou, là, quand même, là, pour un concours qui passerait peut-être mal des mois plus tard.
C'est pas dans le pire. Côté prix pour un grandeur nature, 350.
C'est pas cher.
Ben, non, c'est cher, mais je trouve que c'est dans les meilleurs prix que j'ai vus pour un grandeur nature puis pour la qualité. Honnêtement, les amis, là, si mon loyer coûtait pas aussi cher, je changerais mon chandail pour ça, tu sais.
Pendant deux secondes, je pensais qu'on parlait de grandeur nature, l'activité.
Non, c'est grandeur nature dans le sens que le Yoda, c'est un bébé Yoda, fait qu'on sait que dans l'émission, l'enfant est quand même petit.
Ben oui, il faut.
Mais, tu sais, c'est grandeur nature. Mais aussi, il y a des faux, le bébé Yoda qui se promène sur les
Amazon. Ouais, il y en a en plus en peluche, des trucs du genre.
Exactement. Ça, c'est license. Ils ont la licence. Il y a des gens qui écrivaient dans les commentaires, oups, Disney va être fâché. Non. C'est un vrai item de collection. C'est licencié. I love it. I want it. Je le veux. Noël.
Ah, et voilà. Alors, s'il y a des gens qui pigent quasi dans leur liste d'échanges de cadeaux de Noël, tabarnouche, ça va vous coûter cher. Cha-ching! Quasi, est-ce que ça fait le tour de ton pan de l'actualité?
Oui, ça fait le tour, mais je veux juste faire une mention spéciale à quelqu'un dans le chat qui a écrit France Castelvania.
C'est bon.
Commentaire de l'année. Merci.
Il y a quelqu'un aussi qui a dit « Ta joke n'est pas très bonne, faut que j'aille ailleurs. » Aïe. Tu sais la joke que t'as pas faite, Christine Lemousse?
Ah!
Il y a quelqu'un qui l'a faite à ta place.
Ben, tant mieux.
Ben, bravo à cette personne-là.
Good job.
On passe maintenant à Christine Lemousse. Pour les gens qui ne le savent pas, que c'est leur première écoute, comme je vous disais, Christine, elle a un volet d'actualité qui est plus niche, puis elle a vraiment pris ça et elle s'est approprié le thème, puis c'est ça, la niche à Lemousse, ses fans font wouf. Je sais pas, ses fans sont des chiens, je sais pas quoi dire. Mais elle avait un thème avant qui était bon, là, vraiment, mais qui faisait un peu Bugs Bunny, fait qu'il clashait un peu avec l'image un peu électro-vaporwave de Pèse sur Start, mais on l'appréciait. Évidemment, tu sais, c'est un peu comme Christine Lemousse à Pèse sur Start, on le tolérait. Mais là, Philippe a pris ce thème et il l'a transformé en chanson 8-bits là, de boss qui se tue en un coup d'épée en bois. Là. Et ça cadre mieux dans notre projet. Christine, on te retrouve finalement. Première participation en 2020.
Je suis tellement contente.
On est contente.
Je veux remercier Phil pour le plus beau thème. C'est un cadeau de Noël et de fête en même temps.
Oui, on s'excuse, écoutez, de se flatter dans le dos en ce moment. Là,
non, mais
bravo, Philippe.
Je le fais. Oui, bravo pour les applaudissements en plus. J'espère que c'est toi-même qui les a fait. Oui.
Christine, alors toi, t'es la personne qui va avec des nouvelles un peu plus nichées. Ce qu'on nous reprochait d'ailleurs, c'est ce que tu viens couvrir. Christine, quel os as-tu dans ta dans les niches cette semaine?
Ah non, mais j'ai des os quand même vraiment, vraiment, vraiment bien.
Plein de calcium.
Un premier os que je veux, on va encore le faire.
Gruger?
Non, en fait, je veux encore une fois remercier Raph d'avoir écrit cette nouvelle.
Ah, ouais. Raph a été le grand saint.
Puis Raph va pouvoir peut-être même rajouter des détails que j'ai peut-être manqué. Mais est-ce que probablement dans le chat, même toi peut-être André, là, dans notre adolescence, là, quand on faisait pas nos devoirs puis on avait un ordinateur, qu'est-ce qu'on faisait? On allait tous sur Newgrounds, Miniclip, puis ouais. C'est quoi l'autre?
Moi, c'était, c'était homestarrunner.com.
Ouais, puis
Homestarrunner. Bon choix.
Global Game aussi, j'allais là-dessus. Donc,
Stick Death.
Ce que je veux...
Stick Death, gang!
Albino Black Sheep.
Oui, Albino Black Sheep. Oui.
Fait que là, on sort des mots au hasard.
E-Bombs World.
Fait que là, les gens qui se demandent de quoi vous parlez, je parle des jeux Flash, les amis. Donc, on se ramassait tous sur des plateformes de jeux Flash au secondaire puis au primaire. On sait que Adobe a annoncé la mort de Flash d'ici la fin 2020.
Non!
Les Oscars s'en viennent, guys. Votez pour moi. Appuyez sur F.
Et ça, c'est deux sessions de cégep que je perds.
Ouais.
Parce que j'ai fait Flash 1, Flash 2. Je pense que j'ai fait Flash 3 même. Parce que c'était, fallait que je gradue.
Mais j'en ai fait, moi, du Flash aussi au cégep.
C'est ça, un, deux, trois, en graphisme, on fait ça, du Flash.
Mais bref, avec la disparition de Adobe Flash, il y a plein de jeux qui vont rester en suspens sur les interwebs et qui vont être abandonnés. Des créations.
Lemmings.
Mais c'est ça, exactement.
Il est en HTML5 maintenant.
Il y a des gens qui ont parti un projet justement pour rapatrier toute cette belle histoire de l'Internet et a rapatrié plus de 36 000 jeux Flash.
36 000?
Ouais.
Wow.
Sur un logiciel qui s'appelle Flashpoint, qui est un peu comme un Steam de jeux Flash, et qui, dans le fond, vous pouvez choisir un titre dans une liste. Puis y jouer hors ligne, tout simplement.
Wow. Donc, c'est super.
C'est, pour vrai, c'est vraiment génial que ce projet-là existe. La nostalgie, c'est ce qui est... Pour moi, la nostalgie, je trouve ça important. Je trouve ça important, la nostalgie.
Oh, c'est bien dit.
Ben, c'est vrai, écoutez. Puis...
On le voit avec tes cheveux frisinettes puis tout, là.
J'ai jamais eu de cheveux de couleur, plus quand j'étais plus jeune. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger si vous voulez les avoir à portée de main. Sauf que prévoyez-vous quand même beaucoup d'espace dans votre disque dur.
Ouais.
Ah oui, mais c'est des jeux Flash.
Ouais. Flash, c'est très lourd.
C'est énorme.
Flash, c'est très, très lourd.
Ça demande, là, le fichier pèse, le logiciel avec tous les fichiers pèse près de 290
gigs. Ouais. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des trucs en HTML5, tout ça, puis on aimait ça à cause que c'était une solution très, 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 très légère.
Exactement. Donc,
c'est un peu comme remplacer ton fromage par du fromage cottage, le Flash 5, c'est ça? C'est plus léger?
C'est du fromage cottage 1%.
1%,
le
ouais,
HTML5, puis l'autre, c'est de la crème sûre.
Ouais.
Ah, OK.
Ah, c'est tellement bon, la crème sûre.
Vous voyez ça, quand vous mettez dans des termes que je comprends, ça passe tellement mieux. Merci. Mais Christine, continue.
Mais bref, c'est ça. Donc, l'application, elle est entièrement gratuite.
D'accord.
Ce qui est vraiment cool. Puis, il faut posséder un ordinateur qui a Windows 7 et plus, ce qui est comme la majorité.
Moi, j'ai Windows XP. Est-ce que je peux jouer?
Non. Non, puis je te conseille.
Ça, c'est l'expérience vintage ultime. Ça, c'est quand même jouer des jeux Flash sur Windows XP.
Oui, tellement.
Mais il y a des jeux, c'est des vieux jeux, c'est des ROM qu'on peut retrouver sur les archives du web qu'il faut genre un ordinateur gris, là.
Ouais, mais c'est ça, tu joues à... Moi, j'ai installé DOSBox, là, la boîte DOS. Fait comme ça, je peux jouer à des petits jeux rétro. Mais la plupart de ces jeux-là, plus besoin de DOSBox. Justement, on peut les jouer dans navigateur souvent.
C'est ça. Fait que gang, si ça vous intéresse, cherchez pour Flashpoint, c'est pour vrai, c'est une initiative extraordinaire.
Mais là, Christine, sur le chat, il y a quelqu'un qui s'appelle André Péloquin. je sais le même nom que moi.
Il est fatiguant.
Il écoute à moitié parce qu'il lisait le chat. Et là, Flashpoint, c'est ça, plus de 200 gigs. Est-ce qu'on compte les jeux là-dedans ou c'est juste...
Oui, c'est avec les jeux.
C'est avec les 36 000 jeux.
Ouais, avec la librairie.
Mais, okay, d'accord. Si
mais Raphaël peut rajouter des détails.
Si vous permettez d'ajouter juste un petit point. En fait, il y a une version peut-être plus pour les archivistes. Là, qui est comme de 290 gigs.
Exact.
Mais il y a aussi une version plus légère. Je ne me rappelle plus du poids, là, mais c'est quelque chose de très, très décent.
Je pense que c'est 2 gigs.
Qui est vraiment juste qui est vraiment juste Flashpoint, en fait. Puis les jeux vont se télécharger au fur et à mesure que vous allez y jouer, en fait.
C'est mieux ça. Donc,
ben, merci d'amener ce point-là. Que de bonnes nouvelles, Christine.
Ben oui.
Alors maintenant, là, qu'est-ce que tu nous réserves? Une petite côtelette? Là? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à os?
Une côtelette pour Kasi, en fait.
Oh!
Quoi?
Oui.
Je suis pas au courant de cette nouvelle-là. Là, c'est une surprise.
J'ai un petit cadeau pour Kasi, en fait. Le site Humble Bundle.
Oui.
Ouais. A sorti un nouveau bundle pour seulement à partir de 1$.
Oh mon Dieu.
Mais dans Christine, lequel, si je peux me permettre de t'interrompre,
ouais.
Je connais quelqu'un qui s'appelle André P.
Oh, il m'énerve.
OK. C'est mon oncle. Et disons qu'il ne sait pas c'est quoi Humble Bundle. Peux-tu nous le résumer
oui.
en une phrase?
Humble Bundle, dans le fond, est un site sur lequel vous pouvez vous procurer des jeux vidéo à rabais. Et à chaque mois, il y a toujours un paquet de jeux que vous pouvez procurer pour un montant que vous choisissez ou un montant défini qui vous donne quelques jeux, plusieurs jeux ou beaucoup de jeux.
C'est ça. Et c'est selon le prix que tu payes.
Exactement. Mmh. Et ce montant-là va à la charité. Fait que ça, c'est très, très, très fun.
Oui. Et si je peux me permettre aussi, il y a des bundles aussi. C'est pas pour t'agacer.
Non, c'est
juste pour compléter. Il y a aussi des livres électroniques
oui,
qu'on peut acheter.
Et des logiciels.
Ouais. Comme Christine l'a dit. Puis c'est vraiment le fun. C'est à différents paliers, là. Disons, pour 5$, t'as une vingtaine de jeux. Si tu rajoutes 5$, t'en as 10 autres, patati ouais. patata. Et...
C'est vraiment génial pour
ouais,
vous.
Ouais.
Là.
Très cool.
Mais là, le bundle qui est sorti dernièrement est le bundle de Train Simulator.
Sérieux?
Oh my God. Je l'ai
2020.
Voyons donc.
OK. Donc, pour seulement 1$, vous pouvez donc vous procurer le premier tiers de Train Simulator qui vous donne Train Simulator 2020 et 4 add-ons qui incluent, donc 4 additions qui incluent des nouvelles lignes et des trains pour 1$ et plus. Si vous payez la moyenne du prix que les gens payent, donc c'est environ 5-6$, vous pouvez... 5$, c'est ça. Vous pouvez rajouter 6 morceaux des DLC qui, dans le fond, vous amènent à des places exotiques comme le nord de la côte de Jersey. C'est ça qu'il dit. Et,
est-ce qu'ils disent que c'est exotique aussi?
C'est exotique, on s'en va au New Jersey. Mais Jersey ou Nouveau Jersey?
Non, le Jersey du Nord. Fait que ça doit être genre...
C'est peut-être l'île Jersey?
C'est correct.
On parle
probablement pas.
Et pour 12$ et plus, vous pouvez déverrouiller le bundle complet qui inclut les 6 autres additions et donc plus de trains, des lignes de train qui sont mixées là-dedans.
Ça, c'est live en ce moment.
En ce moment. Là, c'est quand même beaucoup, tu sais, qu'est-ce qu'ils donnent pour 12$. Par contre, il faut quand même se rappeler que Train Simulator vient avec... Vous pouvez acheter tous les DLC sur Steam, mais ça, votre facture remonte à 10 000 $ environ pour toutes les DLC.
Quoi?
En achetant le Humble Bundle, au lieu d'acheter les 569 items qui vous reviennent à 10 000 $
ouais, ben, y a beaucoup de DLC.
C'est ça. Vous aurez juste à en acheter à peu près 553 pour avoir tout. Mais au moins, tu sais, pour quelques dollars, genre, tu peux avoir beaucoup de choses.
Mais au moins d'avoir le jeu de base, Train Simulator, c'est déjà fascinant. C'est quelque chose que je veux dans ma vie.
Ben,
on peut-tu terminer le podcast pour que je stack mon cœur?
Que tu t'en ailles jouer à ça. Écoute, je le savais que t'allais adorer cette
nouvelle. My God, mais je vais aller l'installer sur le PC de Pay sur Start.
Mais si je peux me permettre une parenthèse, le Jersey, si je me fie à ce qu'on en a dit, c'est une des plus grandes îles anglo-normandes.
Oui, mais c'est de là que je viens. Moi, ma famille, c'est pour ça que j'ai dit l'île de Jersey, parce que ma famille vient de Jersey, les amis.
Mais si tu cherches North Jersey Coast, c'est peut-être plus ça.
L'île. C'est sur l'île en
fait. Yo! Represent! Oui.
All right. Ben, écoutez, hein, un podcast de Nouvelle Geek et on en apprend plus sur la géographie. Serais-je Carmen San Diego?
Pour mon dernier os.
Miam!
Dans ma niche. Certains probablement connaissent Monster Hunter World, sur lequel ce jeu fait un tabac sur PC en ce moment. Il est arrivé sur PC il y a vraiment pas longtemps. Et il y a donc présentement un événement qui s'en vient sur PC, qui a été annoncé, qui est sur console, puis là, il s'en vient sur PC. C'est Monster Hunter World crossover, donc qui se mixe avec Resident Evil 2.
C'est très intéressant, ça.
Non, mais en fait, c'est bizarre comme mix.
Ouais, c'est bizarre.
Mais c'est que le jeu.
Comme des zombies, genre.
Ben oui, dans le fond, en fait, c'est que le jeu, tu sais, c'est fait par Capcom.
Ouais.
Donc, bon, c'est sûr qu'il y a ce mix-là. Donc, dans Monster Hunter World, on a d'abord, avant tout, on a un petit personnage qui est comme un petit chat.
Oui, bon, c'est cute. Ça.
Ben là, pendant l'événement, ton petit animal, dans le fond, il va plus être un petit chat, il va devenir Mr. X. De
Mr. X, référence à Arrested Development.
Fait que quand même, c'est vraiment cool. Genre, tu sais, t'as comme un gros monstre comme ami. Hein. Et au travers du jeu, bon, tu peux avoir ton personnage peut être avoir une armure de Léon ou de Claire,
mm-hmm.
qui est quand même cool.
Ouais.
Puis il y a même des quêtes dans lesquelles t'incarnes un zombie. Comme une side quest dans laquelle tu incarnes un zombie pour faire la quête. Et tu peux aussi fabriquer des armures ou des armes qui sont basées de Resident Evil 2. Quand même, il y a vraiment plein de nouvelles choses. Puis c'est vraiment un mix bizarre. Je sais pas, là, j'ai dit ça de même, là, mais Monster Hunter World qui se passe dans des gros monstres un peu mythiques, Resident Evil 2.
Ouais, City. Ben, il y a peut-être un lien insoupçonné, en fait.
Vas-y, mon petit boy, dis-nous-les.
Ben, là, c'est clair que c'est pas ça, là, mais si je peux me permettre, et ça va faire thématique un peu avec ouais. de notre épisode, la série de films Resident Evil mettait en vedette qui?
Mila Jovovich.
Et ouais. qui joue dans le film Monster Hunter?
Ben oui, c'est ça. Mila Jovovich. C'est exactement
Alors, peut-être
ça.
Que c'est ça. Et il y a quelqu'un...
Non, c'est ça, c'est exactement ça. Je suis piste.
Et voilà, hein? J'ai scoulé la niche à l'émousse.
Je suis tellement pissé.
Tant qu'à faire une pause aussi, il y a Kalanar qui nous dit sur la discussion Twitch qu'il y a, en parlant de crossover un peu spéciaux, il y a The Witcher 3 aussi qui était dans Monster Hunter. Ça, je savais pas. Je savais qu'il avait mis Geralt of Rivia dans Soul Calibur 5, 6?
Soul Calibur 700.
Soul Calibur 700.
Voilà.
Mais je ne savais pas qu'il avait été dans... En tout cas, bref, Geralt of Rivera, comme dans Witcher 3, vraiment se répand partout.
Oui, il se répand vraiment beaucoup.
Ah oui,
ouais.
c'est sérieusement, c'est, ça glisse. Là. C'est comme, oh, Gérald est passé par là.
Je crois que c'était tout pour mes chiens. Wouf!
Ben, merci beaucoup, Christine. C'est vraiment une chronique très énergétique.
Ben, Train Simulator!
Oui. J'en ai pas, je suis excité par des chiens. On prend une petite pause et on revient avec notre ami Raphaël Lavoie qui nous vient avec un petit dossier cinématographique, là. Merci à Daft Punk pour cet intermède. Raphaël, les Oscars ce dimanche, qui gagne meilleur film?
Hey, écoute, moi je parie là-dessus avec des amis. Fait que je sais pas si je vais le dire comme ça en ondes.
Ok, dis-le.
Mais ça sera pas Joker. Moi, je suis convaincu que Joker gagnera pas meilleur film.
Moi, je pense qu'ils vont donner interprète, mais ils vont pas donner meilleur film.
Je pense que sincèrement, à part peut-être Joaquin Phoenix, le film devrait pas gagner grand-chose. Puis il y a peut-être un genre de film de guerre avec un nom qui ressemble à une année. D'après moi, va passer un peu la
crise. Oui, mon boy! Oui!
Est-ce que tu parles ici du vidéoclip pour 1979 et Smashing Pumpkins?
Oh!
Oui, exactement. Oh, le beau Billy Corgan.
Bref, Raphaël, la voix, les Oscars s'en viennent et ça t'a inspiré ton dossier de cette semaine. Livre-nous ça, s'il te plaît. Livre tout à nous.
Ben oui, ben écoute, moi je suis un gros fan de cinéma et puis on aurait pu parler avec les Oscars qui s'en viennent évidemment, bon, de Joker, un film qui est un peu geek, qui est tiré d'un univers bande dessinée, qui reçoit autant de nominations dans une cérémonie comme les Oscars, c'est quand même assez rare, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Mais moi, je trouve qu'on en a déjà assez parlé du Joker.
Oui!
De la polémique. Il y a eu les gens qui capotaient sur le film. Il y a eu ceux qui ont trouvé ça bien ordinaire.
C'est
les gens en fait
partie. Plate.
Moi, je pense qu'on vit dans une société.
On vit vraiment dans une société.
Ouais. C'est le fun de s'en rendre compte une fois de temps en temps. Il faut se rappeler.
Excusez-nous. Oh, excusez-nous. On est fatigué un peu, je pense. OK. Il y a VG.QC sur Twitch qui nous dit il n'y a jamais trop de Joker.
Mais.
Twitch is on.
Oh well. Donc, c'est ça. J'ai décidé de vous préparer un petit topo qui est plus ludique un peu et qui mêle toutes nos passions, c'est-à-dire le cinéma et les jeux vidéo. Yeah. Et là, vous me voyez arriver avec mes grands sabots. Je vais vous parler de films adaptés de jeux vidéo.
Tom.
Parce que voyez-vous, les films adaptés de jeux vidéo, c'est un genre dans le cinéma que je trouve absolument fascinant, du moins par sa médiocrité qui est presque obligatoire. On dirait. Tous les jeux qui ont été adaptés ou presque au grand écran, on dirait qu'il y a une obligation autour de ça de scraper l'histoire, de scraper les personnages et vous allez voir avec la chronique que je vous ai préparée qu'on peut difficilement dire le contraire.
Excuse, j'aime bien ça. J'ai bien du fun.
Bon, après ça, on vit dans une société, hein, ben ça oui, prend toutes ça. Sortes de personnes pour faire un monde et toutes sortes d'opinions. Donc, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, peut-être pas avec les critiques, parce que bon, là, vous me voyez venir, j'ai essayé d'être objectif. Donc, je suis allé sur Rotten Tomatoes. Vous connaissez peut-être Rotten Tomatoes?
Oui.
Oui.
Pour bon peut-être les quelques personnes qui sont moins d'adon avec le cinéma et qui ne connaissent pas Rotten Tomatoes, en fait c'est un agrégateur de critiques un peu comme Metacritic où est-ce qu'on va chercher toutes les critiques professionnelles qu'il y a eu pour un film et qu'on obtient au final un pourcentage de bonnes critiques versus mauvaises critiques. Donc un film qui a en majorité des mauvaises critiques est un film rotten, d'où le Rotten Tomatoes. Et voilà, c'est dit. Donc, je suis allé sur Rotten Tomatoes et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait vraiment un palmarès de 42, ils ne sont pas tous là, mais bon, de 42 films inspirés de jeux vidéo qui sont classés, bon, du meilleur au pire en suivant, bon, le pourcentage de critiques positives. Moi, je vous dirais peut-être plus que c'est classé du pire au moins pire.
Oh.
Mais bon, vous verrez. Écoute, on peut embarquer sur le palmarès. Donc, ça regroupe, comme je disais, 42 films adaptés de jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que en 27 ans de films de jeux vidéo, parce que bon, faut retourner en 93 pour le premier. Est-ce que ça vous dit quoi si je vous dis 93, premier film adapté d'un jeu vidéo, ce serait quoi?
Ben, ce serait Mario.
Ben oui.
Oui, ça c'est Mario. Mario.
Pourquoi tu nous le rappelles? Non.
Je refuse.
Non.
Donc c'est ça, ça fait déjà 27, presque 28 ans qu'on a eu, je dirais pas la chance là, de voir Super Mario Bros.
C'est
bon,
plus vu que
Super
nos collaborateurs.
Oui, hein. Il y a du monde qui n'était pas né là, qui nous écoute en ce moment. Hein, quoi, il y a eu un film sur Mario Bros? Hein?
Ouais, non.
avec des vraies personnes en plus, hein. Fait que c'était d'autant plus effrayant de ce côté-là.
Deuxième référence à Dennis Hopper dans cet épisode, d'ailleurs. On a parlé Waterworld tantôt et maintenant Super Mario Bros. Seigneur. Dennis Hopper jouait King Koopa. C'est maintenant un podcast sur Dennis Hopper, guys.
La parenthèse, là.
J'ai étudié en cinéma. On va de retour à Raphaël.
Ouais, donc en 27 ans, sur 42 films de jeux vidéo, d'après vous, il y a eu combien de films qui ont obtenu plus de 60% de critiques positives, donc la note de passage?
Moi, je dirais 2.
Je vais dire 1.
Moi, je vais dire 3, peut-être.
Ben écoute, quasi, t'es pile poil dessus, il y en a juste eu 2.
Hey, bravo! Bravo!
27 ans.
Merci.
Donc, ça vous donne quand même une bonne idée. Et la majorité, ce qu'il faut savoir, des autres films de jeux vidéo ont obtenu à peu près moins de 30% de bonnes critiques. Et il y en a que c'est vraiment abysmal. Donc, selon la presse, selon les critiques professionnelles, le film qui a obtenu le moins de bonnes critiques, les pires critiques, en fait, dans les films, qui sont adaptés de jeux vidéo, c'est Alone in the Dark.
Oui, c'est ça que je pensais. Ça, c'est le fameux réalisateur. Là.
Est-ce que c'est de Uwe Boll?
Uwe Boll, ça.
Oui, exactement. Ouais. Donc, ce cher monsieur Boll, le réalisateur allemand qui est reconnu pour ses films vraiment là, abysmaux, ses films de jeux vidéo. Il en a fait quand même plusieurs. On l'a surnommé entre autres le nouveau Ed Wood. Je trouve que c'est peut-être un peu forcé la note. Il y a eu une pétition qui a déjà demandé son départ du cinéma là, qui lui demandait en fait d'arrêter de faire des films. Donc ça vous donne quand même une idée. Et ce qui est très drôle, drôle, c'est que Uwe Boll a à peu près la majorité des films dans le top 10 des pires films de jeux vidéo.
Est-ce qu'on doit lui dire bravo? Je sais pas. Wow!
Écoute, c'est quand même un achievement, là, si vous passez le terme. Là. Quand, c'est pas rien. Là. Alone in the Dark en 2005 avec le très particulier Christian Slater. Ben, en tout cas, sa fin de carrière est plus particulière qu'autre chose.
Ouais, il n'allait pas bien en ce temps-là.
Christian Slater qui est extraordinaire dans Mr. Robot.
Ouais, c'est ça. C'est son comeback, c'était avec
son comeback, c'était avec Mr. Robot. Mm-hmm. C'est une performance 10 sur 10.
Mais il n'allait pas bien à l'époque. Là.
Non.
Puis Uwe Boll en a profité.
C'est ça, exactement. Il était comme un peu dans une passe à sec, là, on peut dire. 1% de bonnes critiques pour Alone in the Dark. Ensuite, dans le top 10, on a aussi House of the Dead en 2003, par toujours Uwe Boll. 3% de bonnes critiques. In the Name of the King, Dungeon Siege Tale avec le très musclé Jason Statham. 4% de bonnes critiques. Blood Rain.
Oh my God.
Toujours Uwe Boll. 4% de bonnes critiques.
Ah ben c'est mieux, c'est mieux.
En 2007.
Hein? C'est mieux qu'un pour cent.
Ben là, ça s'améliore. Là. Ouais, écoute, il y a Postal en 2007, toujours de Uwe Boll, 9%.
Ah, ça fait mal.
Donc là, on est à peu près dans le top 10. Donc, si vous voulez un mauvais film de jeu vidéo, mais vraiment les plus mauvais, là, vous voulez descendre dans les plus bas fonds qu'il existe, allez-vous chercher un film de Uwe Boll, vous ne vous tromperez pas.
Non, pas vrai.
Oui, il y a des extraits sur YouTube, c'est très, très drôle.
C'est horrible.
C'est très, très drôle.
Oh my God.
Mais c'est pas aussi riche que mettons, The Room, Tommy Wiseau. Mm-hmm. Là, c'est plus pénible.
Non, c'est ça. Il n'y a pas comme de valeur à regarder ça, genre bière à la main avec des amis, puis comme c'est ridicule. Là, c'est ça,
non, c'est plus un drinking game à faire avec ces films-là. Genre,
mais c'est déprimant. C'est pas des films drôles à regarder. Là.
J'ai été voir Far Cry à un Fantasia à un moment donné. Quand c'est sorti, je te jure, je voulais genre arracher tous les cheveux de chaque personne dans la salle tellement c'était mauvais. Genre.
Mais ça, est-ce que c'est un film Uwe Boll aussi?
Oui.
Oh my God. Hey, ça va pas bien, ça. Mais Raphaël, je sais pas si t'allais en venir là, mais tu m'as mis la puce à l'oreille. Là. Tu dis qu'il y a deux films qui sont au-delà des 60%. Est-ce que tu vas pouvoir nous les présenter d'ici la fin de la chronique, ces films-là? Je suis curieux.
Non,
là.
Il va garder le secret à jamais pour qu'on souffre.
Ah, comme Uwe Boll ferait.
On va amener ça dans ma tombe. Mais non, oui, plus sérieusement, je vais clore ma chronique avec ça. Je vais garder le meilleur pour la fin, comme dit le dicton.
Merci donc, beaucoup.
Voilà. J'écoute ça, moi, les dictons. Donc, bref, Uwe Boll qui domine le top 10. Puis, bon, dans le reste du top 10 des pires films, bon, Mortal Kombat Annihilation,
oh
le deuxième.
Ouais, le premier est bon, quand
très
même.
Très mauvais.
Non, il est pas bon.
On va s'en reparler dans deux secondes.
Ouais, ben, c'est ça. Le premier, en fait, c'est un film qui s'assume dans son ridicule, on pourrait dire.
En effet. Merci, Raphaël. Merci. Oui.
Puis c'est bien. Ça prend ce genre de film-là une fois de temps en temps. Donc, c'est ça. Le deuxième Mortal Kombat, le deuxième Street Fighter.
Il y a eu un deuxième Street Hitman, Fighter?
Donc, c'est sûr, des suites de films de jeux vidéo, c'est pas l'idéal. Hein, on peut le dire comme ça. Une autre chose qu'on remarque dans les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est qu'il y a beaucoup de films qui sont adaptés de jeux qui ont un scénario vraiment de qualité. On pense à Max Payne, on pense à Resident Evil, Assassin's Creed, Hitman. Et qui sont complètement massacrés. Moi, je trouve ça un peu drôle de voir un si bon matériel de départ qui peut être travesti là, à ce point-là, en fait. Là. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on remarque.
Moi, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu dis quand il y a un scénario extraordinaire puis ils réussissent quand même à se foirer. Tu sais, ils ont littéralement le guide de A à Z de comment faire un film de jeu vidéo avec des scénarios vraiment géniaux. Comment ils font? Je veux savoir ton opinion là-dessus. Pourquoi ils font ça? Puis comment ils font pour se foirer? Là?
Ben écoute, je pense qu'il y a une question d'argent, une question d'idées, j'imagine, dans plusieurs de ces cas-là, de capitaliser sur l'exposure. En fait, le fait que la franchise est connue, le fait que la franchise attire une certaine clientèle déjà. Donc, c'est l'idée peut-être du vite fait et on se remplit les poches. Bon, je te dirais, écoute, j'ai pas la science infuse et ce serait mon guess de ce côté-là. Mais écoute, tu prends un jeu comme Max Payne qui, la trame scénaristique du premier Max Payne est c'est incroyable. C'est tellement une belle job de la part des gens de chez Remedy. Donc, on arrive avec un jeu qui est vraiment de A à Z, qui peut s'adapter. T'sais, prenez un réalisateur, je sais pas, prenez Tarantino qui prend Max Payne et qui adapte ça en espèce de film noir un peu survolté.
Ça serait
incroyable. Mais là, on est allé chercher... écoute, pas que je déteste Mark Wahlberg, mais écoute, on peut pas dire que ça a été un grand succès là, de ce côté-là. Nobody and John Moore qui avait réalisé à l'époque. Bon, on avait mis des ralentis, puis on avait appelé ça un film that's all. Mais bref, c'est tout ce volet-là.
Ça est un peu
ou Hitman avec Timothy Olyphant. Vous en rappelez? Non, moi non plus, je m'en rappelle pas.
Ouais, c'était Timothy Olyphant, toi, c'était lui, hein?
Ouais.
Mais World Casting, par exemple, il se ressemblait. Mais ils ont sorti une suite aussi que personne ne se rappelle. Mais pendant qu'il est question de Hugh Abel, question quiz pour vous. Que fait Hugh Abel depuis qu'il a pris sa retraite, le savez-vous?
Professeur marketing.
Non.
Okay.
Toi, Raphaël, est-ce que tu le sais?
Je sais qu'il profitait beaucoup à l'époque du système financier allemand. Donc, j'imagine qu'il fait encore des petites crosses en tout cas.
Plus ou moins. Parce qu'en fait, pour vous rassurer, Jean du Canada, Hugh Abel est maintenant parmi nous. Hugh Abel s'est recyclé dans la restauration.
Oh non.
Et notamment...
C'est le propriétaire du garde-manger.
Non. Quand même, en 2017, il ouvrait un restaurant à Vancouver qui a fermé depuis. Mais il a fondé une entreprise qui s'appelle le Bauhaus Group avec son épouse. Et il achète des restaurants qu'il renipe, là, dans le fond, comme en Vancouver.
Bauhaus Flipper!
Il a acheté un sports bar qui s'appelle le B&M Pub et qui a transformé en restaurant pour la famille. Et c'est ça, depuis l'année dernière, c'est sûr que ça vous tente de faire un pèlerinage Hugh Abel, gang de débiles. Eh bien, vous pouvez vous rendre à Toronto, il devrait y avoir un restaurant qui s'appelle le Bauhaus Restaurant. Eh bien, c'est mené par Hugh Abel. Et il y aurait un troisième restaurant qu'il aurait ouvert, et celui-ci est en Chine. Alors, avis aux voyageurs parmi nous qui veulent vraiment suivre les périples de Hugh Abel. Et voilà, c'est maintenant dans les wings de poulet. Alors, Raphaël, ça fait le tour de ta chronique?
Non, il y a genre les bons...
Les bons films, oui, le meilleur pour la fin. Allons-y, écoute, allons-y.
Ça sera pas long, il y en a juste deux, en fait.
Et voilà.
60%. Pokémon Détective Pikachu, sorti en 2019, qui a 69% quand même.
Bravo.
De bonnes critiques avec Ryan Reynolds. Entre autres. Donc, moi, je ne l'ai pas vu personnellement, mais j'en ai entendu du très bon de
Tu avais donné
de
une bonne
côté.
Critique. Ouais, tu avais donné une bonne note. Tu avais donné, je pense, 8 sur 10.
On vous invite à lire sur le page sur Stark.com, mais oui, Kasi, elle a critiqué pour nous, en effet.
Et selon Rotten Tomatoes, le meilleur film basé sur un jeu vidéo de tous les temps ce jour. C'est un film aussi de 2019 et ce serait Angry Birds The Movie 2.
Oui.
Ouais, c'est un film de qualité. Il y a Bill Hader dedans, c'est sûr, c'est bon.
Je suis surpris. J'avoue, j'ai vu.
Il y a John Cena aussi.
J'ai vu le premier souvent avec ma fille. Comme c'est sympathique, mais sans plus. Mais mon Dieu, si Angry Birds 2 est meilleur, pourquoi pas? Ben, merci beaucoup, Raphaël. C'est super apprécié. On a maintenant plein de recommandations de films entre nos séances de jeux vidéo. C'est super apprécié. On prend une petite pause et on passe à la conclusion. Alors, merci aux gens qui nous ont accompagnés dans l'enregistrement live de cet épisode. Justement, il était question de Pokémon détective, de Pikachu détective, là. Comme bon film qui s'est ajouté à notre liste depuis la dernière fois qu'on a caressé ce doux sujet qui est l'adaptation de jeux vidéo en film. Merci à ces gens-là. Merci aussi aux gens qui nous téléchargent ou qui nous streament semaine après semaine sur la plateforme Cube ou encore sur Spotify, sur iTunes et compagnie. C'est super apprécié, tel qu'annoncé en début d'épisode. On vous invite, si vous êtes sur iTunes, on vous invite à nous laisser des commentaires francs et constructifs, ainsi que quelques étoiles, 1, 3, 5, c'est vraiment comme vous voulez. Comme
cinq,
je disais...
5.
Bon, quasi, s'il te plaît. C'est vraiment dans le but de s'améliorer. On vous lit et on assume et on a déjà un bon commentaire là, qui date de il y a quelques semaines. On va l'appliquer le plus tôt possible. Passez sur start.com, c'est notre site. Vous pouvez lire la majorité des contenus mentionnés aujourd'hui là-dessus. Évidemment, qui dit site web dit réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on a un serveur Discord aussi. On est aussi sur Twitter et bien plus, là.
Bientôt sur Club Pingouin.
Peux-tu redire Twitter, s'il te plaît?
Twitter? Qu'est-ce que t'as contre ma prononciation?
Twitter.
Ça, c'est comme la fois que j'ai dit Nintendo de façon experte puis que vous m'avez reproché. Parce que
non, il dit Nintendo.
Ouais, c'est la première fois que tu dis Nintendo. D'habitude, tu dis Nintendo, ça nous rend folle.
Ben, je me suis forcé, on s'entend.
J'aime ça.
Ouais, Twitter.
Mais il a dit Gerald une couple de fois tantôt, Gerald, par contre. Ouais. Mais Gerald, je le laisse passer.
C'est correct.
Je le laisse passer. On t'aime, André.
Vous voyez avec quel genre de monde je travaille en ce moment, c'est fourette. Puis je vous rappelle, notre réalisateur est le Untitled Goose Game. Là. Loi de l'Untitled Goose Game. Je suis entouré de ces gens-là. Trois super vilains. Mine de rien, on est sur le web, mais aussi sur le papier. À chaque semaine, vous pouvez nous lire dans le 24 heures. Les jeudis, on fait des entrevues avec des personnalités geeks ou des geeks qui nous parlent de leur métier un peu, qui sortent de l'ordinaire et qui vont fasciner notre lectorat. Cette semaine, dans les prochains jours, parce que ces articles-là sont aussi sur le web, vous pourrez lire notre entrevue avec Tommy Godet de douteux.org qui nous parle de son engouement pour les films de série Z. Ainsi que pour Magic: The Gathering. Ouais. C'est super intéressant. Et à chaque mois, il y a mes collègues Christine et Kazi qui vous présentent des filles inspirantes dans la chronique Game Balloon dans le magazine Cool. Je vous le répète, si vous êtes plus courriel, gênez-vous pas, contactez-nous. info@pesesurstart.com. Je m'appelle André Péloquin et j'étais en compagnie de Raphaël Lavoie.
Merci beaucoup.
Christine Lemousse, Kazi Sharp et Philippe qui nous fait des pouces. Je pensais qu'elle allait se manifester. Mais, et voilà, il parle dans mes yeux. Et on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être une entrevue, peut-être un invité que si vous écoutez plusieurs podcasts québécois, vous allez l'aimer. Oh. À la semaine prochaine.